La vie de Pascal par Madame Gilberte Perrier, sa sœur, femme de Monsieur Perrier, conseiller de la Cour des aides de Clermont. Mon frère naquit à Clermont le 19 juin de l'année 1623. Mon père s'appelait Étienne Pascal, président à la Cour des aides. Ma mère se nommait Antoinette Bégon. Dès que mon frère fut en âge qu'on lui put parler, il donna des marques d'un esprit tout extraordinaire, par les petites réponses qu'il faisait fort à propos, mais encore plus par des questions sur la nature des choses qui surprenaient tout le monde. Ce commencement, qui donnait de belles espérances, ne se démentit jamais, car à mesure qu'il croissait en âge, il augmentait en force de raisonnement, de sorte qu'il était beaucoup au-dessus de ses forces. Cependant, ma mère étant morte dès l'année 1626, lorsque mon frère n'avait que 3 ans, mon père, se voyant seul, s'appliqua plus fortement aux soins de sa famille et, comme il n'avait point d'autre fils que celui-là, cette qualité de fils unique et les autres qu'il reconnaissait en cet enfant lui donnèrent une si grande affection pour lui qu'il ne put se résoudre à commettre son éducation à un autre et se résolut dès lors de l'instruire lui-même comme il a fait, mon frère n'ayant jamais été en pas un collège et n'ayant jamais eu d'autre maître que mon père. En l'année 1632, mon père se retira à Paris, nous y mena tous et y établit sa demeure. Mon frère, qui n'avait alors que 8 ans, reçut un grand avantage dans cette retraite, dans le dessein que mon père avait de l'élever, car il est sans doute que mon père n'aurait pas pu prendre le même soin dans la province, où l'exercice de sa charge et les compagnies continuelles qui abordaient chez lui l'aurait beaucoup détourné. Mais il était à Paris dans une entière liberté. Il s'y appliqua tout entier et il eut tout le succès que pouvaient avoir les soins d'un père aussi intelligent et affectionné qu'on le puisse être. La principale maxime dans cette éducation était de tenir cet enfant au-dessus de son ouvrage. C'était pour cette raison qu'il ne voulut point lui apprendre le latin, qu'il n'eût 12 ans, afin qu'il le fît avec plus de facilité. Durant cet intervalle, il ne le laissait pas inutile, car il l'entreprenait de toutes les choses dont il le voyait capable. Il lui faisait voir en général ce que c'était que les langues. Il lui montra comment on les avait réduites en grammaire sous de certaines règles, que ces règles avaient encore des exceptions, qu'on avait eu soin de remarquer, et qu'ainsi on avait trouvé moyen, par là, de rendre toutes les langues communicables d'un pays à un autre. Cette idée générale lui débrouillait l'esprit et lui faisait voir la raison des règles de la grammaire, de sorte que quand il vint à l'apprendre, il savait pourquoi il le faisait et il s'appliquait précisément aux choses où il fallait le plus d'occupation. Après ses connaissances, mon père lui en donnait d'autres. Il lui parlait souvent des effets extraordinaires de la nature, comme de la poudre à canon, et d'autres choses qui surprennent lorsqu'on les considère. Mon frère prenait un grand plaisir à ces entretiens, mais il voulait savoir la raison de toutes choses, et comme elles ne sont pas toutes connues, lorsque mon père ne les lui disait pas, ou ne les lui disait que celles qu'on alléguait d'ordinaire, qui ne sont pas proprement que des défaites, cela ne le contentait pas, car il a toujours eu une netteté d'esprit admirable pour discerner le faux, et on peut dire que toujours et en toute chose, la vérité a été le seul objet de son esprit, puisque jamais rien n'a su et n'a pu le satisfaire que sa connaissance. Ainsi, dès son enfance, il ne pouvait se résoudre qu'à ce qui lui paraissait évidemment vrai, de sorte que, quand on ne lui donnait pas de bonnes raisons, il en cherchait lui-même, et quand il s'était attaché à quelque chose, il ne la quittait point qu'il n'en eût trouvé quelqu'une qui le pût satisfaire. Une fois, par hasard, quelqu'un ayant frappé à table un plat de faïence avec un couteau, il prit garde que cela rendît un grand son, mais qu'aussitôt qu'on eût mis la main dessus, cela l'arrêta. Il voulut en même temps en savoir la cause, et cette expérience le porta à en faire beaucoup d'autres sur les sons. Il y remarqua tant de choses qu'il en fit un traité à l'âge de 11 ans, qui fut trouvé tout à fait raisonné. Son génie pour la géométrie commença à paraître qu'il n'avait encore que 12 ans, par une rencontre si extraordinaire qu'elle mérite bien d'être déduite en particulier. Mon père était savant dans les mathématiques et il avait l'habitude par là avec tous les habiles gens en cette science qui étaient souvent chez lui. Mais comme il avait dessein d'instruire mon frère dans les langues et qu'il savait que la mathématique est une chose qui remplit et satisfait l'esprit, il ne voulut point que mon frère en eût aucune connaissance, de peur que cela ne le rendît négligent pour le latin et les autres langues dans lesquelles il voulait le perfectionner. Par cette raison, il avait fermé tous les livres qui en traitaient. Il s'abstenait d'en parler avec ses amis en sa présence. Mais cette précaution n'empêchait pas que la curiosité de cet enfant ne fût excitée, de sorte qu'il priait souvent mon père de lui apprendre les mathématiques. Mais il lui refusait en lui proposant cela comme une récompense. Il lui promettait qu'aussitôt qu'il saurait le latin et le grec, il les lui apprendrait. Mon frère, voyant cette résistance, lui demanda un jour ce que c'était que cette science et de quoi on y traitait. Mon père lui dit en général que c'était le moyen de faire des figures justes et de trouver les proportions qu'elles ont entre elles, et en même temps lui défendit d'en parler davantage et d'y penser jamais. Mais cet esprit, qui ne pouvait pas demeurer dans ses bornes, dès qu'il eut cette simple ouverture que la mathématique donne des moyens de faire des figures infailliblement justes, il se mit lui-même à rêver et à ses heures de récréation, étant venu dans une salle où il avait coutume de se divertir, il prenait du charbon et faisait des figures sur les carreaux, cherchant les moyens par exemple de faire un cercle parfaitement rond, un triangle dont les côtés et les angles fussent égaux, et d'autres choses semblables. Il trouvait tout cela, lui seul, sans peine. Ensuite, il cherchait les proportions des figures entre elles, mais comme le soin de mon père avait été si grand de lui cacher toutes ces choses qu'il n'en savait pas même les noms, il fut contraint lui-même de s'en faire. Il appelait un cercle un rond, une ligne une barre, ainsi des autres. Après ces noms, il se fit des axiomes et enfin des démonstrations parfaites, et comme l'on va de l'un à l'autre dans ces choses, il passa et poussa sa recherche si avant qu'il en vint jusqu'à la 32e proposition du premier livre d'Euclide. Comme il en était là-dessus, mon père entra par hasard dans le lieu où il était sans que mon frère l'entendît. Il le trouva si fort appliqué qu'il fut longtemps sans s'apercevoir de sa venue. On ne peut dire lequel fut le plus surpris, ou le fils de voir son père à cause de la défense expresse qu'on lui en avait faite, ou du père de voir son fils au milieu de toutes ces choses. Mais la surprise du père fut bien plus grande lorsque, lui ayant demandé ce qu'il faisait, il lui dit qu'il cherchait telle chose qui était la 32e proposition du livre d'Euclide. Mon père lui demanda ce qu'il avait fait penser à cela. Il dit que c'était qu'il avait trouvé telle chose, et sur cela, lui ayant fait la même question, il lui dit encore quelques démonstrations qu'il avait faites, et enfin en rétrogradant et se servant pour les noms de rond et de barre, il en vint à ses définitions et à ses axiomes. Mon père fut si épouvanté de la grandeur et de la puissance de ce génie que, sans lui dire un mot, il le quitta et alla chez M. le pailleur, qui était son ami intime et qui était aussi très savant. Lorsqu'il y fut arrivé, il demeura immobile et comme tout transporté. M. le pailleur, voyant cela et voyant même qu'il versait des larmes, fut tout épouvanté et le pria de ne lui pas sceller plus longtemps la cause de son déplaisir. Mon père lui dit « Je ne pleure pas d'affliction, mais de joie. Vous savez le soin que j'ai pris pour ôter à mon fils la connaissance de la géométrie, de peur de le détourner de ses autres études. Cependant, voyez ce qu'il a fait. » Sur cela, il lui montra même ce qu'il avait trouvé, par où l'on pouvait dire en quelque façon qu'il avait trouvé la mathématique. Monsieur le pailleur ne fut pas moins surpris que mon père l'avait été et lui dit qu'il ne trouvait pas juste de captiver plus longtemps cet esprit et de lui cacher encore cette connaissance, qu'il fallait lui laisser voir les livres sans le retenir davantage. Mon père ayant trouvé cela à propos, lui donna les éléments d'Euclide pour les lire à ses heures de récréation. Il les vit et les entendit tout seul, sans avoir jamais eu besoin d'explication. Et pendant qu'il les voyait, il composait et allait si avant qu'il se trouvait régulièrement aux conférences qui se faisaient toutes les semaines, où les plus habiles gens de Paris s'assemblaient pour porter leurs ouvrages et pour examiner ceux des autres. Mon frère tenait fort bien son rang, tant pour l'examen que pour la production, car il était un de ceux qui y portaient le plus souvent les choses nouvelles. On voyait aussi fort souvent dans ces assemblées des propositions qui étaient envoyées d'Allemagne et d'autres pays étrangers, et on prenait son avis sur tout, et avec autant de soin que de pas un autre. Car il avait des lumières si vives qu'il est arrivé qu'il découvrait des fautes dont les autres ne s'étaient point aperçus. Cependant, il n'employait à cette étude que les heures de récréation. Car alors, il apprenait le latin sur des règles que mon père lui avait faites exprès. Mais comme il trouvait dans cette science la vérité qu'il avait toujours cherchée si ardemment, il en était si satisfait qu'il y mettait tout son esprit, de sorte que, pour peu qu'il s'y occupât, il avançait tellement qu'à l'âge de 16 ans, il fit un traité des coniques qui passa pour un si grand effort d'esprit qu'on disait que depuis Archimède, on n'avait rien vu de cette force. Tous les habiles gens étaient d'avis qu'on l'imprimât dès lors, parce qu'ils disaient qu'encore que ce fût un ouvrage qui serait toujours admirable, néanmoins, si on l'imprimait dans le temps que celui qui l'avait inventé n'avait encore que 16 ans, cette circonstance ajouterait beaucoup à sa beauté. Mais comme mon frère n'a jamais eu de passion pour la réputation, il ne fit point de cas de cela, et ainsi cet ouvrage n'a jamais été imprimé. Durant tout ce temps-là, il continuait d'apprendre le latin et le grec, et outre cela, pendant et après le repas, mon père l'entretenait tantôt de la logique, tantôt de la physique et des autres parties de la philosophie, et c'est tout ce qu'il en a appris, n'ayant jamais été au collège, ni eu d'autres maîtres pour cela, non plus que pour le reste. Mon père prenait un tel plaisir qu'on peut croire de ce progrès que mon frère faisait dans toutes les sciences. Mais il ne s'aperçut pas que ces grandes et continuelles applications d'esprit dans un âge si tendre pouvaient beaucoup intéresser sa santé, et en effet, elle commença d'être altérée dès qu'il eut atteint l'âge de 18 ans. Mais comme les incommodités qu'il ressentait alors n'étaient pas d'une grande force, elles ne l'empêchaient pas de continuer toutes ses occupations ordinaires, de sorte que ce fut en ce temps-là et à l'âge de 19 ans qu'il inventa cette machine d'arithmétique par laquelle non seulement on fait toutes sortes d'opérations sans plumes et sans jetons, mais on les fait même sans savoir aucune règle d'arithmétique et avec une sûreté infaillible. Cet ouvrage a été considéré comme une chose nouvelle de la nature, d'avoir réduit en machine une science qui réside tout entière dans l'esprit et d'avoir trouvé les moyens d'y faire toutes les opérations avec une entière certitude, sans avoir besoin de raisonnement. Ce travail le fatigua beaucoup, non pas pour la pensée ni pour les mouvements qu'il trouva sans peine, mais pour faire comprendre aux ouvriers toutes ces choses, de sorte qu'il fut 2 ans à la mettre dans la perfection où elle est présentement. Mais cette fatigue et la délicatesse où se trouvait alors sa santé depuis plusieurs années le jetèrent dans des incommodités qui ne l'ont plus quitté, de sorte qu'il nous a dit quelquefois que depuis l'âge de 18 ans, il n'avait pas passé un jour sans douleur. Ces incommodités n'étant pas toujours dans une égale violence, dès qu'il avait un peu de relâche, son esprit se portait incontinent à chercher quelque chose de nouveau. Ce fut dans un de ces temps-là, à l'âge de 23 ans, qu'ayant vu l'expérience de Torricelli, il inventa ensuite et exécuta l'autre qu'on nomme l'expérience du vide, qui prouve si clairement que tous les effets qu'on avait jusque-là attribués au vide sont causés par la pesanteur de l'air. Cette occupation fut la dernière où il occupa son esprit pour les sciences humaines, et quoiqu'il ait inventé la roulette après, cela ne contredit pas ce que je dis, car il la trouva sans y penser et d'une manière qui fait bien croire qu'il n'y avait pas d'application, comme je le dirais en son lieu. Immédiatement après, et lorsqu'il n'avait pas encore 24 ans, la providence de Dieu ayant fait naître une occasion qui l'obligea de lire des écrits de piété, Dieu l'éclaira de telle sorte par cette sainte lecture qu'il comprit parfaitement que la religion chrétienne nous oblige à ne vivre que pour Dieu et à n'avoir point d'autre objet que lui. Et cette vérité lui parut si évidente et si nécessaire et si utile qu'elle termina toutes ses recherches. De sorte que dès ce temps-là, il renonça à toutes les autres connaissances pour s'appliquer à l'unique chose que Jésus-Christ appelle nécessaire. Il avait jusqu'alors été préservé par une protection particulière de la Providence de tous les vices de la jeunesse, et ce qui est encore plus étrange en un esprit de cette trempe et de ce caractère, il ne s'était jamais porté au libertinage pour ce qui regarde la religion, ayant toujours borné sa curiosité aux choses naturelles, et il m'a dit plusieurs fois qu'il joignait cette obligation à toutes les autres qu'il avait de mon père, qui, ayant lui-même un très grand respect pour la religion, le lui avait inspiré dès l'enfance, lui donnant pour maxime que tout ce qui est l'objet de la foi ne le saurait être de la raison. Ces maximes, qui lui étaient souvent réitérées par un père pour qui il avait une très grande estime et en qui il voyait une très grande science accompagnée d'un raisonnement fort net et fort puissant, faisait une si grande impression sur son esprit que quelques discours qu'il entendit faire aux libertins, il n'en était nullement ému et, quoiqu'il fût fort jeune, il les regardait comme des gens qui étaient dans le faux principe que la raison humaine est au-dessus de toute chose et qui ne connaissaient pas la nature de la foi. Ainsi, cet esprit si grand, si vaste et si rempli de curiosité, qui cherchait avec tant de soin la cause et la raison de tout, était en même temps soumis à toutes les choses de la religion comme un enfant. Et cette simplicité a régné en lui toute sa vie, de sorte que depuis même qu'il se résolut à ne plus faire plus d'autres études que celles de la religion, il ne s'est jamais appliqué aux questions curieuses de la théologie et il a mis toute la force de son esprit à connaître et à pratiquer la perfection de la morale chrétienne à laquelle il a consacré tous les talents que Dieu lui avait donnés, n'ayant fait autre chose tout le reste de sa vie que méditer la loi de Dieu jour et nuit. Mais quoiqu'il n'eût pas fait une étude particulière de la scolastique, il n'ignorait pourtant pas les décisions de l'Église contre les hérésies qui ont été inventées par la subtilité et l'égarement de l'esprit humain, et c'est contre ces sortes de recherches qu'il était le plus animé, et Dieu lui donna dans ce temps-là une occasion de faire paraître le zèle qu'il avait pour la religion. Il était pour lors à Rouen, où mon père était employé au service du roi, et où il n'y avait en ce temps-là un homme qui enseignait une nouvelle philosophie qui attirait tous les curieux. Mon frère ayant été pressé par deux jeunes hommes de ses amis, il fut avec eux. Mais ils furent bien surpris, dans l'entretien qu'ils eurent avec cet homme, de voir qu'en leur débitant les principes de sa philosophie, il en tirait des conséquences sur des points de la foi contraires aux décisions de l'Église. Il prouvait par des raisonnements que le corps de Jésus-Christ n'était pas formé du sang de la Vierge et plusieurs autres choses semblables. Ils voulurent le contredire, mais il demeura ferme dans ses sentiments. De sorte qu'ayant considéré entre eux le danger qu'il y avait de laisser la liberté d'instruire la jeunesse à un homme qui était dans des sentiments erronés, ils résolurent de l'avertir premièrement et de le dénoncer s'il résistait à leurs avis. La chose arriva ainsi, car il méprisa cet avis, de sorte qu'ils crurent qu'il était de leur devoir de le dénoncer à Mgr du Bellay, qui faisait pour lors les fonctions épiscopales dans le diocèse de Rouen par commission de Mgr l'archevêque. Mgr du Bellay envoya quérir cet homme, et l'ayant interrogé, il en fut trompé par une confession équivoque qu'il écrivit et signa de sa main,
faisant d'ailleurs peu de cas d'un avis de cette importance qui lui était donné par trois jeunes hommes. Cependant, aussitôt qu'ils virent cette confession de foi, ils en connurent tout le défaut, ce qui les obligea d'aller trouver M. l'archevêque de Rouen à Gaillon, qui, ayant examiné toutes choses, les trouva si importantes qu'il écrivait une patente à son conseil et donna un ordre exprès à Mgr du Bellay pour faire rétracter cet homme sur tous les points dont il était accusé et de ne rien recevoir de lui que par la communication de ceux qu'il avait dénoncés. La chose fut exécutée et il comparut dans le conseil de Mgr l'archevêque et renonça à tous ses sentiments. Et on peut dire que ce fut sincèrement, car il n'a jamais témoigné de fiel contre ceux qui lui avaient causé cette affaire, ce qui fait croire qu'il était lui-même trompé par les fausses conséquences qu'il tirait de ses faux principes. Aussi est-il bien vrai qu'on n'avait eu en cela aucun dessein de lui nuire, ni d'autre vue que de le détromper lui-même et l'empêcher de séduire les jeunes gens qui n'eussent pas été capables de discerner le vrai d'avec le faux dans des questions si subtiles. Ainsi, cette affaire se termina avec douceur, et mon frère, continuant de plus en plus de rechercher les moyens de plaire à Dieu, cet amour pour la perfection s'enflamma de telle sorte dès l'âge de 24 ans qu'il se répandit sur toute la maison. Mon père, n'ayant pas de honte de se rendre aux enseignements de son fils, embrassa dès lors une vie plus exacte par la pratique continuelle des vertus jusqu'à sa mort, qui a été tout à fait chrétienne. Ma sœur, qui avait des talents d'esprit tout extraordinaires, dès son enfance, dans une réputation où peu de filles parviennent dans un âge plus avancé, fut aussi tellement touchée des discours de mon frère qu'elle résolut de renoncer à tous les avantages qu'elle avait tant aimés jusqu'alors et de se consacrer tout entière à Dieu. Comme elle avait beaucoup d'esprit, dès que Dieu lui eut tourné le cœur, elle comprenait comme mon frère toutes les choses qu'il disait de la sainteté de la religion chrétienne, et ne pouvant se souffrir dans l'imperfection où elle se croyait dans le monde, elle se fit religieuse dans une maison très austère au Port-Royal des Champs et y est morte à l'âge de 36 ans, après avoir passé par les emplois les plus difficiles et s'être consommée ainsi en peu de temps dans un mérite que les autres n'acquièrent qu'après beaucoup d'années. Mon frère avait pour lors 24 ans. Ses incommodités avaient toujours beaucoup augmenté et elles vinrent jusqu'au point qu'il ne pouvait plus rien avaler de liquide, à moins qu'il ne fût chaud, et encore ne le pouvait-il faire que goutte à goutte. Mais comme il avait, outre cela, une douleur de tête comme insupportable, une chaleur d'entrailles et beaucoup d'autres maux, les médecins lui ordonnèrent de se purger de 2 jours l'un durant 3 mois, de sorte qu'il fallut prendre toutes les médecines en la matière qu'il était capable, c'est-à-dire les faire chauffer et les avaler goutte à goutte. C'était un véritable supplice, et ceux qui étaient auprès de lui en avaient horreur seulement à les voir. Mais mon frère ne s'en plaignait jamais. Il regardait tout cela comme un gain pour lui. Car, comme il ne connaissait plus d'autre science que celle de la vertu et qu'il savait qu'elle se perfectionnait dans les infirmités, il faisait avec joie de toutes ses peines le sacrifice de sa pénitence, y remarquant en toute chose les avantages du christianisme. Il disait souvent qu'autrefois, ses incommodités le détournaient de ses études et qu'il en avait de la peine, mais qu'un chrétien trouvait son compte à tout et aux souffrances encore plus particulièrement, parce qu'on y connaissait Jésus-Christ crucifié, qui doit être toute la science d'un chrétien et l'unique gloire de sa vie. La continuation de ses remèdes avec les autres qu'on lui fit pratiquer lui donnèrent quelque soulagement, mais non pas une santé parfaite. De sorte que les médecins crurent que pour le rétablir entièrement, il fallait qu'il renonçât à toute occupation d'esprit qui eût quelque suite et qu'il cherchât autant qu'il pourrait toutes les occasions de se divertir l'esprit à quelque chose qu'il appliquât et qui lui fût agréable,
c'est-à-dire en un mot aux conversations ordinaires du monde, car il n'y avait point d'autre divertissement convenable à mon frère. Mais quel moyen a un homme touché comme lui de pouvoir s'y résoudre? En effet, il y eut beaucoup de peine d'abord, mais on le pressa tant de toutes parts qu'il se laissa enfin aller à la raison spécieuse de remettre sa santé. On le persuada que c'est un dépôt dont Dieu veut que nous ayons soin. Le voilà donc dans le monde. Il se trouva plusieurs fois à la cour où des personnages qui étaient consommés remarquèrent qu'il en prit d'abord l'air et les manières avec autant d'agrément que s'il y eût été nourri toute sa vie. Il est vrai que quand il parlait du monde, il en développait si bien tous les ressorts qu'il était aisé de concevoir qu'il était très capable de les remuer et de se porter à toutes les choses qu'il fallait faire pour s'y accommoder, autant qu'il le trouverait raisonnable. Ce fut le temps de sa vie le plus mal employé, car, quoique par la miséricorde de Dieu il s'y soit préservé des vices, enfin, c'était toujours l'air du monde qui est bien différent de celui de l'Évangile. Dieu, qui demandait de lui une plus grande perfection, ne voulait pas l'y laisser longtemps et se servit pour cela de ma sœur pour le retirer, comme il s'était servi autrefois de mon frère pour retirer ma sœur des engagements où elle était dans le monde. Depuis qu'elle était entrée en religion, elle avait tous les jours augmenté en ferveur et tous ses sentiments ne respiraient qu'une sainteté sans réserve. C'est pourquoi elle ne pouvait souffrir que celui à qui elle était redevable après Dieu, des grâces dont elle jouissait, ne fût dans la possession de ces mêmes grâces, et comme mon frère la voyait souvent, elle lui en parlait souvent aussi, et enfin elle le fit avec tant de force qu'elle lui persuada, ce qu'il lui avait persuadé le premier, de quitter le monde et toutes les conversations du monde, dont les plus innocentes ne sont que des inutilités continuelles, tout à fait indignes de la sainteté du christianisme à laquelle nous sommes tous appelés et dont Jésus-Christ nous a donné l'exemple. La raison de sa santé, qu'il avait touchée auparavant, lui parut si pitoyable qu'il en eut honte lui-même. La lumière de la vraie sagesse lui fit voir à découvert que le salut devait être préférable à toute chose et que c'était raisonner faux que de s'arrêter à un bien passager de notre corps quand il s'agissait du bien éternel de notre âme. Il avait 30 ans quand il résolut de quitter ses nouveaux engagements qu'il avait dans le monde. Il commença à changer de quartier et pour rompre davantage toutes ses habitudes, il alla à la campagne, d'où étant de retour après une retraite considérable, il témoigna si bien qu'il voulait quitter le monde que le monde enfin le quitta. Enfin, il agissait toujours par principe en toute chose. Son esprit et son cœur, faits comme ils étaient, ne pouvaient pas avoir d'autre conduite. Ainsi, ceux qu'il se proposa dans sa retraite furent ces maximes si solides de la vraie piété, l'une de renoncer à tous les plaisirs et l'autre de renoncer aussi à toutes sortes de superfluités. Il commença d'abord, pour entrer dans la pratique de la première maxime, à se passer dès lors, comme il a toujours fait depuis, du service des domestiques autant qu'il le pouvait. Il faisait son lit lui-même, il allait prendre son dîner dans la cuisine, il rapportait sa vaisselle et enfin ne se servait de son monde que pour les choses qu'il ne pouvait absolument faire lui-même. Il n'était pas possible qu'il n'usât de ses sens, mais quand il était obligé par nécessité de leur donner quelque plaisir, il avait une adresse merveilleuse pour en détourner l'esprit afin qu'il n'y prît point de part. Nous ne lui avons jamais, oui, loué en mangeant les viandes qu'on lui servait, et quand on avait eu soin quelquefois de lui servir quelque chose de plus délicat, si on lui demandait s'il l'avait trouvé bon, il disait simplement « Il fallait m'en avertir auparavant, car à présent je ne m'en souviens plus, et je vous avoue que je n'y ai pas pris garde. » Et lorsque quelqu'un, selon l'usage si ordinaire du monde, admirait la bonté de quelque viande,
il ne pouvait que souffrir et appelait cela être sensuel, encore que ce ne fussent que les choses les plus communes. Parce que, disait-il, c'était une marque que l'on mangeait pour contenter son goût, ce qui était toujours un mal, ou pour le moins que l'on parlait un langage conforme à celui des hommes sensuels et qui n'était pas honnête à un chrétien, qui ne doit jamais rien dire, qui n'est même un air de sainteté. Il n'avait point voulu permettre qu'on fît aucune sauce, ni aucun ragoût, non pas même qu'on lui donnât de l'orange ni du verjus, ni rien qui excitât l'appétit, quoiqu'il aimât naturellement toutes ces choses. Il avait réglé, dans le commencement de sa retraite, la quantité de nourriture qu'il fallait pour le besoin de son estomac. Et depuis ce temps-là, quelque appétit qu'il eût, il ne passait jamais cette mesure, et quelque dégoût qu'il eût aussi, il fallait qu'il mangeât ce qu'il avait réglé. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il faisait cela, il répondait que c'était le besoin de l'estomac qu'il fallait satisfaire et non celui de l'appétit. Mais la mortification de ses sens n'allait pas seulement à se retrancher ainsi de tout ce qui pouvait leur être agréable, soit pour la nourriture, soit pour les remèdes. Il apprit 4 ans de suite des consommés sans témoigner le moindre dégoût. C'était assez qu'on lui ait ordonné quelque chose, il la prenait sans peine, et lorsque je m'étonnais qu'il n'avait point de répugnance à prendre certaines médecines fort dégoûtantes, il se moquait de moi et me disait qu'il ne pouvait comprendre lui-même comment on pouvait témoigner de la répugnance quand on prenait une chose volontairement et après qu'on ait été averti qu'elle était mauvaise, qu'il n'y avait que la violence et la surprise qui dussent produire ses effets. Il sera aisé de remarquer dans la suite l'application qu'il avait à renoncer à toute chose de plaisir de l'esprit, l'amour-propre peut avoir part. Il n'a pas eu moins de soin de pratiquer l'autre maxime qu'il s'était proposée, de renoncer à toutes sortes de superfluités, qui est une suite de la première. Il s'était réduit peu à peu à n'avoir plus de tapisserie dans sa chambre, parce qu'il ne croyait pas cela nécessaire, et d'ailleurs, n'y étant pas obligé par aucune bienséance, parce qu'il ne venait plus le voir que des gens à qui il recommandait sans cesse le retranchement et qui, par conséquent, n'étaient pas surpris de voir qu'il vivait de la même manière qu'il conseillait aux autres de vivre. Voilà comment il a passé 5 ans de sa vie, depuis 30 ans jusqu'à 35, travaillant sans cesse pour Dieu ou pour le prochain, ou pour lui-même, en tâchant de se perfectionner de plus en plus. Et on pourrait dire en quelque façon que c'est tout le temps qu'il a vécu, car les 4 années que Dieu lui a données après n'ont été qu'une continuelle langueur. Ce n'était pas proprement une maladie qui fût venue nouvellement, mais un redoublement de ses grandes indispositions où il avait été sujet dès sa jeunesse. Mais il en fut alors attaqué avec tant de violence qu'enfin il y succomba. Et durant tout ce temps, il n'a pu du tout travailler un instant à ce grand ouvrage qu'il avait entrepris pour la religion, ni assister les personnes qui s'adressaient à lui pour avoir des avis, ni de sa bouche, ni par écrit, car ses maux étaient si grands qu'il ne pouvait les satisfaire, quoiqu'il en eût un grand désir. Nous avons déjà remarqué qu'il s'était exempté de la superfluité des visites et il ne voulut même voir personne du tout. Mais comme on cherche toujours un trésor partout où il est et que Dieu ne permet pas qu'une lumière qui est allumée pour éclairer soit cachée sous le boisseau, un certain nombre de gens et de personnes d'esprit qu'il avait connu auparavant, le venait chercher dans sa retraite et demandait ses avis. D'autres qui avaient des doutes sur des matières de foi et qui savaient qu'il avait de grandes lumières là-dessus, recouraient aussi à lui. Et les uns et les autres, dont plusieurs sont vivants, en revenaient toujours fort contents et témoignent encore aujourd'hui, dans toutes les occasions, que c'est à ces éclaircissements et à ces conseils qu'ils sont redevables du bien qu'ils connaissent et qu'ils font. Quoiqu'il ne fût engagé dans les conversations
que pour des raisons toutes de charité, et qu'il veilla beaucoup sur lui-même pour ne rien perdre de ce qu'il tâchait d'acquérir dans sa retraite, il ne laissa pas pourtant d'en avoir de la peine et d'appréhender que l'amour-propre ne lui fit prendre quelque plaisir à ses conversations. Et sa règle était de n'en prendre aucune où ce principe eut la moindre part. D'un autre côté, il ne croyait pas pouvoir refuser à ces personnes le secours dont elles avaient besoin. Voilà donc comme un combat. Mais l'esprit de la mortification, qui est l'esprit même de la charité qui accommode toute chose, vint au secours et lui inspira d'avoir une ceinture de fer pleine de pointes et de la mettre à nu sur sa chair toutes les fois qu'on le viendrait avertir que des messieurs le demanderaient. Il le fit, et lorsqu'il s'élevait en lui quelque esprit de vanité ou qu'il se sentait touché du plaisir de la conversation, il se donnait des coups de coude pour redoubler la violence d'Épicure et se faire ensuite ressouvenir de son devoir. Comme il ne pouvait, dans cet état, ni lire ni écrire, il était contraint de demeurer à rien faire et de s'aller promener sans pouvoir penser à rien qui eût de la suite. Il appréhendait avec raison que ce manquement d'occupation, qui est la racine de tout mal, ne le détournât de ses vues. Et pour se tenir toujours averti, il s'était comme incorporé cet ennemi volontaire qui, en piquant son corps, excitait sans cesse son esprit à se tenir dans la ferveur et lui donnait ainsi le moyen d'une victoire assurée. Mais tout cela était si secret que nous n'en savions rien du tout et nous ne l'avons appris qu'après sa mort d'une personne de très grande vertu qu'il aimait et à qui il avait été obligé de le dire pour des raisons qui la regardaient elle-même. Tout le temps que la charité ne lui emportait pas en la manière que nous venons de dire était employé à la prière et à la lecture de l'Écriture sainte. C'était là comme le centre de son cœur et où il trouvait sa joie et tout le repos de sa retraite. Il est vrai qu'il avait un don tout particulier pour goûter l'avantage de ces deux occupations si précieuses et si saintes. On pouvait même dire qu'elles n'étaient point différentes en lui, car il méditait l'Écriture sainte en priant. Il disait souvent que l'Écriture sainte n'était pas une science d'esprit, mais du cœur, qu'elle n'était intelligible que pour ceux qui ont le cœur droit, et que tous les autres n'y trouvaient que de l'obscurité, que le voile qui est sur l'Écriture pour les Juifs y est aussi pour les mauvais chrétiens, et que la charité était non seulement l'objet de l'Écriture, mais qu'elle en était aussi la porte. Il allait plus loin et disait encore que l'on était bien disposé à entendre les saintes Écritures quand on se hait soi-même et qu'on aimait la vie mortifiée de Jésus-Christ. C'était dans ces dispositions qu'il lisait l'Écriture sainte et il s'y était si fort appliqué qu'il la savait quasi toute par cœur, en sorte qu'on ne pouvait la lui citer à faux et qu'il disait positivement « Cela n'est pas de l'Écriture ou cela en est » et marquait précisément l'endroit et généralement tout ce qui pouvait servir à lui donner une intelligence parfaite de toutes les vérités, tant de la foi que de la morale. Il avait un tour d'esprit si admirable qu'il embellissait tout ce qu'il disait et quoiqu'il apprît plusieurs choses dans les livres, quand il les avait digérées à sa manière, elles paraissaient tout autres parce qu'il savait toujours s'énoncer de la manière qu'il fallait qu'elles le fussent pour entrer dans l'esprit de l'homme. Il avait naturellement le tour de l'esprit extraordinaire, mais il s'était fait des règles d'éloquence toutes particulières qui augmentaient encore son talent. Ce n'était point ce qu'on appelle de belles pensées, qui n'ont qu'un faux brillant et qui ne signifient rien. Jamais de grands mots et peu d'expressions métaphoriques, rien ni d'obscur, ni de rude, ni de dominant, ni d'omis, ni de superflu. Mais il concevait l'éloquence comme un moyen de dire les choses d'une manière que tous ceux à qui l'on parle les puissent entendre sans peine et avec plaisir. Et il concevait que cet art consistait dans de certaines dispositions
qui doivent se trouver entre l'esprit et le cœur de ceux à qui l'on parle, et les pensées et les expressions dont on se sert, mais que les proportions ne s'ajustent proprement ensemble que par le tour qu'on y donne. C'est pourquoi il avait fort étudié le cœur de l'homme et son esprit. Il en savait tous les ressorts parfaitement bien. Quand il pensait quelque chose, il se mettait en la place de ceux qui devaient l'entendre et, examinant si toutes les propositions s'y trouvaient, il voyait ensuite quel tour il leur fallait donner et il n'était pas content qu'il ne vît clairement que l'un était tellement fait pour l'autre, c'est-à-dire qu'il avait pensé pour l'esprit de celui qu'il devait voir, que quand cela viendrait à se joindre par l'application qu'on y aurait, il fût impossible à l'esprit de l'homme de ne pas s'y rendre avec plaisir. Ce qui était petit, il ne le faisait pas grand, et ce qui était grand, il ne le faisait point petit. Ce n'était pas assez pour lui qu'une chose parût belle, mais il fallait qu'elle fût propre au sujet, qu'elle n'eût rien de superflu, mais rien aussi qui lui manquât. Enfin, il était tellement maître de son style qu'il disait tout ce qu'il voulait et son discours avait toujours l'effet qu'il s'était proposé. Et cette manière d'écrire, naïve, juste, agréable, forte et naturelle, en même temps lui était si propre et si particulière qu'aussitôt qu'on vit paraître les lettres au provincial, on jugea bien qu'elles étaient de lui, quelque soin qu'il eût pris de le cacher, même à ses proches. Ce fut en ce temps-là qu'il plut à Dieu de guérir ma fille d'une fistule lacrymale dont elle était affligée il y avait 3 ans et demi. Cette fistule était d'une si mauvaise qualité que les plus habiles chirurgiens de Paris la jugèrent incurable. Et enfin, Dieu s'était réservé de la guérir par l'attouchement d'une sainte épine qui est à Port-Royal, et ce miracle fut attesté par plusieurs chirurgiens et médecins et autorisé par le jugement solennel de l'Église. Ma fille était filleule de mon frère, mais il fut plus sensiblement touché de ce miracle par la raison que Dieu y était glorifié et qu'il arrivait dans un temps où la foi dans la plupart du monde était médiocre. La joie qu'il en eut fut si grande qu'il en était tout pénétré, et comme son esprit ne s'occupait jamais de rien sans beaucoup de réflexion, il lui vint, à l'occasion de ce miracle particulier, plusieurs pensées très importantes sur les miracles en général, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. S'il y a des miracles, il y a donc quelque chose au-dessus de ce que nous appelons la nature. La conséquence est de bon sens. Il n'y a qu'à s'assurer de la certitude et de la vérité des miracles. Or, il y a des règles pour cela qui sont encore dans le bon sens et ces règles se trouvent juste pour les miracles qui sont dans l'Ancien Testament. Ces miracles sont donc vrais. Il y a donc quelque chose au-dessus de la nature. Mais ces miracles ont encore des marques que leur principe est Dieu, et ceux du Nouveau Testament en particulier, que celui qui les opérait était le Messie que les hommes devaient attendre. Donc, comme les miracles tant de l'Ancien que du Nouveau Testament prouvent qu'il y a un Dieu, ceux du Nouveau en particulier prouvant que Jésus était le véritable Messie. Il démêlait tout cela avec une lumière admirable, et quand nous l'entendions parler et qu'il développait toutes les circonstances de l'Ancien et du Nouveau Testament où étaient rapportés ces miracles, il nous paraissait clair. On ne pouvait nier la vérité de ces miracles, ni les conséquences qu'il en tirait pour la preuve de Dieu et du Messie, sans choquer les principes les plus communs sur lesquels on assure toutes les choses qui passent pour indubitables. On a recueilli quelque chose de ses pensées là-dessus. Mais c'est peu, et je croirais être obligé de m'étendre davantage pour y donner plus de jours selon tout ce que nous lui en avons ouï dire si un de ses amis ne nous avait donné une dissertation sur les œuvres de Moïse où tout cela est admirablement bien démêlé et d'une manière qui ne serait pas indigne de mon frère. Je vous renvoie donc à cet ouvrage et j'ajoute seulement ce qu'il est important de rapporter ici, que toutes les différentes réflexions que mon frère fit sur les miracles lui donnèrent beaucoup de nouvelles lumières sur la religion. Comme toutes les vérités sont tirées les unes des autres, c'était assez qu'il fût appliqué à une, les autres lui venaient, comme à la foule, et se démêlaient à son esprit, d'une manière qu'il enlevait lui-même à ce qu'il nous a dit souvent, et ce fut en cette occasion qu'il se sentit tellement animé contre les athées que, voyant dans les lumières que Dieu lui avait données de quoi les convaincre et les confondre sans ressources, il s'appliqua à cet ouvrage dont les parties qu'on a ramassées nous font avoir tant de regrets qu'il n'ait pas pu les rassembler lui-même et avec tout ce qu'il aurait pu ajouter encore, en faire un composé d'une beauté achevée. Il en était assurément très capable, mais Dieu, qui lui avait donné tout l'esprit nécessaire pour un si grand dessein, ne lui donna pas assez de santé pour le mettre ainsi dans sa perfection. Il prétendait faire voir que la religion chrétienne avait autant de marques de certitude que les choses qui sont reçues dans le monde pour les plus indubitables. Il ne se servait point pour cela de preuves métaphysiques. Ce n'est pas qu'il crût qu'elles fussent méprisables, quand elles étaient bien mises en leur jour, mais il disait qu'elles étaient très éloignées du raisonnement ordinaire des hommes, que tout le monde n'en était pas capable, et qu'à ceux qu'il était, elles ne servaient qu'un moment, car une heure après, il ne savait qu'en dire, et il craignait d'être trompé. Il disait aussi que ces sortes de preuves ne nous peuvent conduire qu'à une connaissance spéculative de Dieu, et que connaître Dieu de cette sorte était ne le connaître pas. Il ne devait pas non plus se servir des raisonnements ordinaires que l'on prend des ouvrages de la nature. Il les respectait pourtant parce qu'ils étaient consacrés par l'Écriture sainte et conformes à la raison, mais il croyait qu'ils n'étaient pas assez proportionnés à l'esprit et à la disposition du cœur de ceux qu'il avait dessein de convaincre. Il avait remarqué par expérience que, bien loin qu'on les emportât par ce moyen, rien n'était plus capable au contraire de les rebuter et de leur ôter l'espérance de trouver la vérité que de prétendre de les convaincre ainsi seulement par ces sortes de raisonnements contre lesquels ils se sont si souvent raidis que l'endurcissement de leur cœur les a rendus sourds à cette voix de la nature et qu'enfin ils étaient dans un aveuglement dont ils ne pouvaient sortir que par Jésus-Christ, hors duquel toute communication avec Dieu nous est ôtée, parce qu'il est écrit que personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui il plaît au Fils de le révéler. La divinité des chrétiens ne consiste pas seulement en un Dieu simplement auteur des vérités géométriques et de l'ordre des éléments, c'est la part des païens. Elle ne consiste pas en un Dieu qui exerce sa providence sur la vie et sur les biens des hommes pour donner une heureuse suite d'années. C'est la part des Juifs. Mais le Dieu d'Abraham et de Jacob, le Dieu des chrétiens, est un Dieu d'amour et de consolation. C'est un Dieu qui remplit l'âme et le cœur de ceux qui le possèdent. C'est un Dieu qui leur fait sentir intérieurement leur misère et sa miséricorde infinie, qui s'unit au fond de leur âme, qui les remplit d'humilité, de foi, de confiance et d'amour, qui les rend incapables d'autre fin que de lui-même. Le Dieu des chrétiens est un Dieu qui fait sentir à l'âme qu'il est son unique bien, que tout son repos est en lui, qu'elle n'aura de joie qu'à l'aimer, et qui lui fait en même temps abhorrer les obstacles qui la retiennent et l'empêchent de l'aimer de toutes ses forces. L'amour-propre et la concupiscence qui l'arrêtent lui sont insupportables et Dieu lui fait sentir qu'elle a ce fond d'amour-propre et que lui seul peut l'en guérir. Voilà ce que c'est que connaître Dieu en chrétien. Mais pour le connaître en cette manière, il faut connaître en même temps sa misère et son indignité et le besoin qu'on a d'un médiateur pour s'approcher de Dieu et s'unir à lui. Il ne faut point séparer ces connaissances, et parce qu'étant séparées, elles sont non seulement inutiles, mais nuisibles. La connaissance de Dieu sans celle de notre misère fait l'orgueil, celle de notre misère sans Jésus-Christ
fait notre désespoir. Mais la connaissance de Jésus-Christ nous exempte de l'orgueil et du désespoir, parce que nous y trouvons Dieu seul consolateur de notre misère et la voie unique de la réparer. Nous pouvons connaître Dieu sans connaître notre misère, ou notre misère sans connaître Dieu, ou même Dieu et notre misère sans connaître le moyen de nous délivrer des misères qui nous accablent. Mais nous ne pouvons connaître Jésus-Christ sans connaître tout ensemble et Dieu et notre misère, parce qu'il n'est pas simplement Dieu, mais un Dieu réparateur de nos misères. Ainsi, tous ceux qui cherchent Dieu sans Jésus-Christ ne trouvent aucune lumière qui les satisfasse ou qui leur soit véritablement utile, car ou ils n'arrivent pas jusqu'à connaître qu'il y a un Dieu, ou s'ils y arrivent, c'est inutilement pour eux parce qu'ils se forment un moyen de communiquer sans médiateur avec ce Dieu qu'ils ont connu sans médiateur, de sorte qu'ils tombent dans l'athéisme et le déisme, qui sont les deux choses que la religion chrétienne aborde presque également. Il faut donc tendre uniquement à connaître Jésus-Christ, puisque c'est par lui seul que nous pouvons prétendre de connaître Dieu et d'une manière qui nous soit utile. C'est lui qui est le vrai Dieu des hommes, des misérables et des pécheurs. Il est le centre de tout et l'objet de tout, et qui ne le connaît point ne connaît rien dans l'ordre de la nature du monde, ni dans soi-même, car non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il faut que l'homme soit dans le vice et dans la misère. Avec Jésus-Christ, l'homme est exempt de vice et de misère. En lui est tout notre bonheur, notre vertu, notre vie, notre lumière, notre espérance, et hors de lui, il n'y a que vice, que misère, ténèbres et désespoir, et nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans la nôtre. Ces paroles sont de lui mot pour mot, et j'ai cru les devoir rapporter ici, parce qu'elles nous font voir admirablement bien quel était l'esprit de son ouvrage, et que la manière dont il voulait s'y prendre était sans doute la plus capable de faire impression sur le cœur des hommes. Un des principaux points de l'éloquence qu'il s'était fait était non seulement de ne rien dire que l'on n'entendit pas ou que l'on entendit avec peine, mais aussi de dire des choses où il se trouva que ceux à qui nous parlions fussent intéressés, parce qu'il était assuré que pour lors, l'amour-propre même ne manquerait jamais de nous y faire faire réflexion, et de plus la part que nous pouvons prendre aux choses étant de deux sortes, car ou elles nous affligent ou elles nous consolent, il croyait qu'il ne fallait jamais affliger qu'on ne consolât, et que bien ménager tout, cela était le secret de l'éloquence.